page Facebook Festival Nicolet.
Sur Via 95, c'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes qui est présentée en collaboration avec la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, communément appelée la SPIB. Et en l'absence de son président directeur général, Donald Olivier, dont c'est l'anniversaire, semble-t-il, aujourd'hui. Donc, on lui souhaite un bon anniversaire, où qu'il soit. Hein? Donc, bon anniversaire à Donald. Alors, en son absence, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau, parce qu'on a eu l'occasion de la recevoir récemment en studio, sa digne représentante, la conseillère en relation avec le milieu à la SPIB, Marie-Noëlle Bourque. Bonjour, Marie-Noëlle.
Bonjour, Marc. Donald est à Montréal pour un événement, donc ça me fait plaisir d'être en onde aujourd'hui.
Bon, mais c'est super. Puis tantôt, on aura le plaisir de saluer notre invité du jour, mais on garde le suspense pour nos auditeurs et auditrices. Parce qu'avant de le faire, avant de faire la présentation, je tiens à rappeler justement à nos auditeurs et auditrices, qu'il est possible de poser vos questions en allant tout simplement sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, et en cliquant sur « Poser vos questions ». Où on peut transmettre ses questions par texto, par téléphone, 819-519-9050, 819-519-9050. Mais avant de dévoiler le nom de notre invité, tu veux revenir, Marie-Noëlle, sur des événements qui ont eu lieu vendredi et samedi dans le parc industriel de Bécancour. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, en fait, on tenait la première édition de nos journées découvertes. On en a parlé amplement dans les dernières émissions depuis qu'on a repris les ondes en septembre. On a fait de la publicité aussi là, pour inviter les gens. Donc, vendredi dernier, le 26 septembre, en après-midi, on accueillait la communauté d'affaires pour venir à la rencontre des entreprises industrielles du parc qui sont établies ou en construction sur le territoire du parc industriel, la SPIB. Alors, c'est plus de 85 PME qui sont venus rencontrer les gens qui tenaient des kiosques. Donc, on avait 13 kiosques vendredi après-midi. Donc, plus de 85 PME, c'est vraiment une belle réussite.
Le but, c'était de créer des relations d'affaires ou de se familiariser PME, donneur d'ordre, quoi que ce soit?
Exactement. En fait, c'était de faire du réseautage d'affaires pour répondre à un besoin qui était nommé par le milieu des PME et d'avoir plus de contact avec les donneurs d'ordre. Donc, oui, de la filière batterie en soi. Mais on a mis une plus-value à notre événement en mettant aussi des entreprises industrielles établies sur le secteur de la SPIM, donc qui sont déjà en bonne posture, là, en opération depuis de nombreuses années. Alors, ça crée vraiment des éléments gagnants là, pour tout le monde, autant les entreprises qui tenaient des kiosques que les PME qui sont venus à leur rencontre.
Vraiment une bonne réponse. Puis le lendemain, c'était pour la population, hein, si je ne m'abuse.
Effectivement, on avait fait de la promotion là, via des encarts publics postage dans les casiers postaux. On avait diffusé ça assez largement. Donc, c'est près de 300 personnes qui sont venues nous rencontrer. Encore des kiosques avec les entreprises. On a ajouté les entreprises de services pour cette journée-là, en plus des entreprises industrielles qu'on avait la veille. Donc, c'est 16 kiosques qui étaient présents, avec des partenaires également. Alors, près de 300 personnes, c'est génial. On avait des visites entrôlées, autant le samedi que le vendredi, des visites qui affichaient complètes. On aurait même pu en mettre plus de visites. Là, on aurait trouvé preneur pendant les deux journées. Alors, on avait samedi là, plusieurs éléments pour la population. Donc, les kiosques, comme je l'ai mentionné, on avait des conférences de la BC de la recherche par Sylvain Juteau, qui est le fondateur de Roulet électrique. On avait des essais de véhicules électriques, en fait, des essais routiers, avec l'Association des véhicules électriques du Québec. Donc, à peu près de 27 essais routiers ont été faits. C'est génial. Alors, effectivement, avec le trolley, ça nous a confirmé aussi que le tourisme industriel est encore bien en demande. Il y avait un intérêt très, très fort. On est heureux d'avoir pu offrir ça aux PME et aussi à la population.
Et qui sait s'il n'y aura pas une deuxième édition l'an prochain ou quoi que ce soit, mais vous allez voir selon les besoins et la demande aussi, là, j'imagine, Marie-Noëlle.
Oui, effectivement, on va faire un petit sondage auprès des gens qui sont venus nous visiter, les PME et les kiosques, pour voir comment elles ont vécu ça. Sur place, c'était hyper positif. Donc, on fait un petit bilan de tout ça et on va se positionner pour, d'après moi, une prochaine édition, vu le succès qu'on a obtenu.
Puis Donald s'était rendu disponible, je pense aussi, hein, dans une tournée VIP samedi matin, je crois.
Oui, on l'avait annoncé. En plus, lundi passé, on ouvrait un autre trolley là, pour les auditeurs. Donc, c'est affiché complet aussi, ce qui est génial. Et Donald a fait des mots de bienvenue dans chacun des trolleys. Mm-hmm. Il a animé celui du samedi matin, mais dans les autres trolleys, là, est allé se présenter aux gens présents dans le véhicule. Et Maurice Richard, en fait, a fait son animation qui excelle toujours autant auprès des participants. Donc, on remercie énormément Maurice là, pour sa présence lors de chacune des animations. Les gens sortent du trolley avec le sourire et une tonne de nouvelles informations en tête.
Bien, bravo pour l'organisation, puis on remercie les gens de s'être déplacés aussi, tant les entrepreneurs, les entreprises, les PME, que la population en général. Bonne réponse. Alors, vraiment, ça montre la pertinence d'expliquer ce qui se passe dans le parc. On le fait semaine après semaine avec cette émission-là, puis on ne fait pas exception cette semaine parce qu'on a notre invité que je vais te donner le plaisir de nous présenter pour justement faire découvrir un aspect du parc non négligeable. Vous allez voir un projet important. Donc, je te laisse aller avec ton invité, notre invité, Marie-Noëlle.
Oui, puis en fait, notre invité aujourd'hui, c'est une collègue qui était aussi présente lors des deux événements. Donc, elle et son équipe étaient là pour informer la population. C'est quand même un projet de grande envergure. Donc, c'est Laurence Trépanier qui est ici avec nous aujourd'hui, la directrice de projet pour le projet portuaire Horizon Bécancour, modernisation portuaire. Alors, bienvenue à la radio, Laurence.
Merci beaucoup.
Alors, vous l'aurez compris, nous allons parler de portuaire aujourd'hui. C'est un volet très important. Il faut se rappeler que la Société du parc industriel est portuaire de Bécancour, donc c'est un volet important. Alors, avec Laurence, on va prendre les prochaines minutes pour voir un petit peu ce qui se passe avec le projet Horizon Bécancour, je pense, de mémoire, le titre. Mais d'abord, avant d'y aller avec le projet, Laurence, peut-être nous faire un portrait un petit peu. Le port actuellement, ça ressemble à quoi? C'est quoi les infrastructures actuelles là, avant qu'on y aille avec le projet de modernisation?
Oui, bien, il y a des gens plus limités qui savent pas du tout qu'on a un port, en fait, à Bécancour. Donc, le port de Bécancour, on est un port de juridiction provinciale. Donc, c'est une administration portuaire un peu différente des autres ports sur le Saint-Laurent. On a 5 postes à quai au port de Bécancour qu'on appelle communément B1, 2, 3, 4, 5. Donc, on en a 5. Ce qu'on manutentionne au port de Bécancour, c'est un volume de 2,8 millions de tonnes métriques de marchandises annuellement. Donc, c'est les résultats de l'année 2024-2025. Donc, c'est quand même non négligeable là, pour un... On pense souvent que le port de Bécancour est un plus petit port, mais on rivalise quand même avec des ports, là, comme le port de Trois-Rivières, des choses comme ça au niveau du tonnage. Là, on a vraiment un bon volume manutentionné. Pour manutentionner toutes ces tonnes de marchandises, on a environ 154 navires annuellement. Donc, c'est les résultats de l'année dernière aussi. Donc, c'est quand même une bonne occupation des quais. Puis, je pense que c'est important de mentionner que la haute saison, c'est vraiment du début juin pour nous jusqu'à la mi-novembre environ. Donc, c'est vraiment dans ce moment-là qu'il y a vraiment une concentration de navires. Au niveau des opérations au port, il y en a 60% qui sont liées aux entreprises du parc. Donc, la raison d'être du port, d'abord et avant tout, c'est de desservir les entreprises du parc. Donc, il y a beaucoup d'intrants pour les industries qui arrivent par la voie maritime. Donc, c'est 60% des opérations aux entreprises du parc, comme je disais. Un 30% pour le nord du Québec. Donc, on a beaucoup de cargo qui s'en va pour desservir les communautés nordiques. Donc, tout ce qu'on peut penser que les communautés au nord du Québec peuvent avoir de besoin, les véhicules, de l'outillage, tout ce qu'on peut penser qui n'est pas alimentaire, ça passe par le port de Bécancour. Puis, on a un 10% qui est pour du cargo autre. Donc, ça peut être des équipements quelconques qui arrivent par navire ou qui doivent repartir, mais du cargo général de toute autre nature.
Puis, il y a des produits en particulier qui se distinguent là-dedans. Là.
Oui. Dans le fond, nos deux produits les plus manutentionnés qu'on a au port de Bécancour, c'est l'alumine pour l'aluminerie Bécancour et le cargo général, là, comme j'expliquais, tout ce qui est marchandises diverses là, qui... pas alimentaire, là, qui s'en va majoritairement vers le nord du Québec.
Et la nationalité des navires, c'est assez varié. On peut en identifier quelques-uns?
Oui, bien, c'est des navires internationaux. Donc, les nationalités des navires qui viennent au port de Bécancour, numéro un, c'est des navires canadiens.
D'accord.
Numéro 2, provient des îles Marshall, et numéro 3, des Pays-Bas. Donc, on voit que c'est quand même assez varié, puis on reçoit vraiment des bateaux là, d'un peu partout là, dans le monde.
C'est un fait aussi que, comme tu l'as mentionné au début, c'est méconnu le port, parce qu'effectivement, bon, on pense toujours au port de Trois-Rivières. Port de Trois-Rivières, c'est bien correct, mais effectivement, le parc industriel de Bécancour a ce port avec des infrastructures assez impressionnantes, mais non seulement elles sont impressionnantes, mais avec tout ce qui se passe, ça nécessite quand même une modernisation, un agrandissement, et c'est là qu'on s'en va dans notre discussion, Laurence. Il y a ce projet de modernisation du port. D'abord, je pense la question fondamentale, pourquoi on a jugé nécessaire de mettre en place ce projet-là? Puis, est-ce que c'est quelque chose qui était souhaité depuis longtemps ou c'est vraiment circonstanciel avec ce qui se passe que, oups, là, ça nous a poussé à le faire? Donc, j'aimerais ça peut-être que tu nous fasses la genèse un peu de ce projet-là de modernisation.
Oui, bien, dans le fond, le projet du nouveau quai qu'on détaillera par la suite, ça fait longtemps que c'est dans les cartons. Moi, je suis arrivée à la SPIB en 2022, puis c'était déjà, on en discutait déjà, puis dans le cadre du projet, des fois, on sort des archives, puis il y a des documents qui datent d'une dizaine d'années qui font déjà état de ces projets-là qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, ça fait quand même longtemps que c'est dans les cartons. C'est certain que le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire une croissance du secteur industriel, une croissance et un développement du parc industriel, une croissance du cargo du Nord, comme on mentionnait, il y a des nouveaux utilisateurs. Puis, on a une période de congestion là, portuaire. Je ne sais pas si c'est le terme adéquat là, au niveau maritime. Mais
concentré dans une période.
Exact. De juin à mi-novembre, on a vraiment une grande concentration. Puis, ça demande beaucoup de gymnastique. Il y a du temps d'attente de navires, des choses comme ça. Donc, on veut vraiment développer. Nos infrastructures sont vieillissantes. Donc, il y a une partie du projet qui est vraiment de revamper les infrastructures. Puis, c'est pour se donner vraiment d'augmenter là, la capacité littéralement du port de Bécancour.
Est-ce que la filière batterie est venue pousser davantage la pertinence du projet ou on l'aurait fait quand même tôt ou tard à cause de la demande générale de la clientèle du parc ou quoi que ce soit? Là, ou la filière batterie, c'est vraiment un élément déterminant par rapport à ce projet-là?
Filière batterie ou pas, le projet a sa raison d'être. Dans le fond, l'élément qui est important dans le cadre de la filière batterie, c'est que c'est une offre de services qu'on offre dans le parc, les services maritimes. Donc, c'est certain que ça contribue au fait que des industries veulent s'installer à Bécancour, mais le projet de développement portuaire aurait eu lieu avec ou sans la filière batterie, puisque c'était déjà un besoin qui était criant, puis d'augmenter la capacité, puis la croissance des autres secteurs là, justifie amplement le projet de développement.
Puis, peut-être avant d'aller à la pause, on pourrait commencer à voir un petit peu avec toi le portefeuille de projet qui est sur la table à dessin là, actuellement. Là. Est-ce qu'on peut le décliner avant la pause un peu? Là?
Oui, bien, on peut le décliner en trois blocs rapidement. Donc, un tout nouveau poste à quai là, de presque 400 mètres de façade là, au niveau du Saint-Laurent avec l'aire d'entreposage qui va avec d'à peu près 70 000 mètres carrés. On prolonge également un autre poste à quai d'une quarantaine de mètres pour faciliter là, les opérations portuaires. Et on fait un réaménagement complet là, de la zone portuaire, que ce soit l'entrée, la circulation et les accès à la zone portuaire.
Peut-être une question qui me vient à l'esprit, Marie-Noël. Est-ce que durant la journée découverte, on se rendait jusqu'au port ou c'est pas un endroit où on peut vraiment visiter de manière avec une grande masse de personnes? Est-ce que c'était prévu, ça?
Oui, en fait, lorsqu'on fait la visite en trolley du parc industriel, on va toujours du côté du port. On veut donner cette vue-là aux gens qui sont assis dans le véhicule parce qu'on n'a pas le droit d'y aller sans notre invitation. Si je peux dire ça ici. Mm-hmm. Alors, c'est toujours très impressionnant pour les gens qui assistent à la
visite. Donc, ça veut dire que les gens ont pu voir, entre autres en fin de semaine, les lieux là, pour le site portuaire. Là.
Oui, effectivement. Recevoir beaucoup d'informations aussi en lien avec les opérations, le projet justement sur lequel Laurence nous parle aujourd'hui. C'est vraiment une visite exceptionnelle pour les gens. Là, on n'a pas souvent la chance de rentrer dans une zone portuaire comme ça. Donc, on est heureux de pouvoir l'offrir, mais on y va très rapidement.
Donc, c'est vraiment intéressant de voir que les gens ont pu visualiser en tout cas déjà les lieux actuels, mais aussi d'avoir décliné quand même déjà une partie du projet. Laurence, on va continuer après la pause de le faire, mais aussi on aura aussi voir avec toi comment on réalise un projet d'une telle ampleur. Donc, ce sera intéressant de voir les différentes étapes. Alors, on revient après la pause, mais en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à via.fm onglet Le Parc en 30 minutes en cliquant sur « Posez vos questions » ou on peut le faire par texto, téléphone 819-519-9050. Et on revient après la pause avec Marie-Noëlle Bourque, mais aussi Laurence Trépanier de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on va continuer à fouiller, à vraiment expliquer ce qui se passe avec ce projet de modernisation du port dans Bécancour. Revenez-nous après la pause.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
Nous sommes de retour et on avait invité les gens à poser des questions. Il y a une question qu'on a reçue d'un auditeur, c'est par rapport au trolley. On a parlé qu'il y en a eu en fin de semaine lors de cette journée découverte. Et la question que je vais adresser à Marie-Noëlle, est-ce qu'il y aura d'autres visites par trolley d'ici la fin de la saison, là, par exemple?
Oui, il y a d'autres visites qui sont prévues, en fait, et c'est nous, on fait les visites du parc industriel en collaboration avec la ville de Bécancour, donc Tourisme Bécancour qui s'occupe du trolley. Alors, j'invite les gens à communiquer avec le bureau touristique, en fait, au 819-233-4636, donc 233-4636. Et notre collègue Maria, en fait, de Tourisme Bécancour, notre collègue partenaire, pourra mentionner aux gens s'il reste encore des places pour les dimanches matins, donc animés par Maurice Richard. Mais il y a des visites aussi qui s'inscrivent dans l'agenda là, pour les mercredis matins okay. à partir des secteurs de la ville de Bécancour. Donc, on a déjà fait le secteur Bécancour. Alors, il y en reste d'autres avec des places qui peuvent sûrement être disponibles également. Donc, les gens peuvent appeler Tourisme Bécancour pour vérifier si des places sont encore disponibles.
Donc, des bonnes nouvelles. Alors, n'hésitez pas à aller du côté de Bécancour, découvrir avec le trolley ces infrastructures-là. Et puis, on a reçu aussi une question par rapport, on a parlé le port de Bécancour, méconnu par rapport au port de Trois-Rivières, mais la question qui surgit chez un auditeur, c'est bon, est-ce qu'il y a une compétition entre le port de Trois-Rivières et le port de Bécancour par rapport aux navires? Est-ce que vous battez pour attirer le navire chez vous? Comment ça fonctionne? La relation avec le port de Trois-Rivières.
Non, on n'est pas en compétition du tout. Là, on a une très bonne relation avec le port de Trois-Rivières. On collabore sur beaucoup de dossiers, notamment le dossier des projets. Je ne vais pas parler pour le port de Trois-Rivières, mais ils ont un gros projet de développement, présentement d'expansion. Puis pas plus tard que mercredi cette semaine, là, j'y vais avec l'équipe de projet du port de Bécancour visiter leur chantier pour un peu y aller avec les leçons apprises, s'ils ont des conseils à nous donner, des choses comme ça. Puis on est déjà allé visiter le chantier un peu plus tôt cet hiver. Donc, on a vraiment une belle collaboration. Puis on fait appel un à l'autre, là, les équipes, si on peut s'aider dans certains dossiers, là, de mon côté au niveau projet, mais également au niveau de la gestion du port elle-même, on a des échanges là, avec Trois-Rivières. Donc non, on n'est pas en compétition du tout. Je dirais plus qu'on est des partenaires et des amis de l'autre bord du fleuve.
C'est bon à savoir. En plus, on avait reçu Gaétan Boivin à l'émission aussi, le PDG du port de Trois-Rivières. Donc effectivement, de très bonnes relations entre les deux ports puis les deux administrations aussi portuaires. Alors, on va continuer justement notre découverte du projet de modernisation. Bon, on a décliné tantôt avant la pause, Laurence, tu as décliné le portefeuille de projet, mais ce qui serait intéressant de savoir avec toi ce midi, c'est quand même un projet de plusieurs millions de dollars, là. Je ne me rappelle plus du montant, mais c'est en plusieurs centaines de millions, je pense. Mais donc, c'est quand même un projet d'une grande ampleur, puis effectivement, là, il faut parler de différents aspects, financement, etc. Donc, peut-être nous expliquer un petit peu comment on fait un projet comme ça. Bon, ça prend de l'argent, il y a une échéance, il y a des études, alors je te laisse aller par rapport à ça.
Oui, bien, premièrement, comme tu l'as mentionné, Marc, le financement, il n'y a pas un projet qui se fait sans financement. C'est un projet de l'ordre de près de 328 millions de dollars. Donc, c'est assez important quand même là, comme projet. Au niveau du financement, bien, l'ASPIB avait présenté là, en juin 2022, donc ça commence à faire déjà un moment, une demande d'aide financière à Transport Canada via un programme qui s'appelle Fonds national des corridors commerciaux. Donc, c'est plein de technicalités, mais c'est pour dire dans le fond que c'est Transport Canada qui finance une partie du projet, la moitié pour être exact. Donc, il y a près de 164 millions de dollars qui provient de Transport Canada, puis l'autre 50 % provient du gouvernement du Québec. Donc, les deux additionnés ensemble, on retrouve notre près de 328 millions. Le financement, comme je disais, la demande avait été présentée en juin 2022. L'entente a été signée avec Transport Canada à la fin mai 2024. Donc, on parle quand même de près de deux ans là, de, soit d'analyse du dossier du côté de Transport Canada ou d'échange pour en venir à une entente signée. Puis, ça a été annoncé là, en novembre 2024 par les ministres respectifs là, de chacun des paliers de gouvernement directement à la SPIB. Donc, c'est comme ça, dans le fond, qu'on a le financement là, pour accomplir un gros projet de développement comme ça. Là.
Parce que ça se fait pas en criant ciseaux non plus. Donc, ça prend le financement. Une fois qu'on l'a, ben là, il faut établir le calendrier des travaux préparatoires ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'au niveau échéancier, là, on en est où présentement par rapport à ce projet-là? C'est quoi votre calendrier?
Oui, ça, c'est la question à 328 millions. ça ne se fait pas en criant ciseaux, peut-être en criant bateau, non. mais dans le fond, le projet, si on constate qu'on a commencé à travailler vraiment plus activement en 2024, il y a beaucoup d'études préparatoires que je pourrais détailler un peu par la suite. On travaille avec un échéancier pour que l'ensemble du projet soit complété à la fin de l'année 2028, début 2029. Donc, quand je parle de l'ensemble du projet, c'est autant la partie qui est dans l'eau, donc les quais, que les parties qui sont sur terre ferme, qui est plus le réaménagement. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'échéancier de tout ce qui est dans l'eau est beaucoup dicté par tout ce qui est permis environnementaux, études environnementales. Donc, on est là-dedans présentement à l'étape collecte de données. Puis, c'est certain qu'une fois là, qu'on aura déposé toutes les demandes, c'est-à-dire de permis environnementaux, bien là, c'est là qu'on sera plus en mesure là, de fixer l'échéancier. Mais ce qui est visé, c'est que ce soit complété pour la fin 2028. Puis, pour mettre les choses en perspective, tous ceux du milieu à qui je parle de cet échéancier-là, on peut le qualifier d'assez ambitieux. Moi, j'y crois, c'est réaliste, mais on ne se mentira pas, il ne faut pas qu'il y ait trop de sable dans l'engrenage.
C'est bon. Parce qu'il y a d'autres étapes. Là, ben, il y a plusieurs étapes. Il y a les études. Évidemment, le volet environnement est important, mais bon, quelle sorte d'études qu'on mène dans ce genre de projet-là? Puis l'aspect environnemental, là, on le situe où dans les priorités, là, des préoccupations là, chez vous? Là?
Oui, puis je pense que c'est important de souligner parce que les gens qui sont moins dans les cadres de projets d'infrastructure comme ça peuvent penser qu'il ne se passe rien présentement parce qu'il n'y a pas de pelle sur le chantier, sur le terrain. C'est pas vrai. On travaille fort là, à tous les jours. Fait qu'on a présentement près d'une vingtaine là, d'études en cours ou réalisées. Donc, quand on parle d'études qu'on doit produire là, pour les volets autant environnement que pour le volet ingénierie, on peut parler d'inspection sous-marine des quais. On peut parler de bathymétrie. Ça, bathymétrie, c'est carrément faire un sondage du fond marin pour voir où sont, s'il y a des bosses de sable, des choses comme ça, là, pour vraiment avoir une bonne idée du relief. On doit faire des études écologiques, donc aller voir les espèces, autant fauniques, floristiques, qui sont sur le terrain et tout, pour vraiment compléter puis avoir une bonne connaissance des lieux, de l'environnement, pour venir alimenter nos grosses études qui résument un peu tout ça, qu'on appelle des études d'impact. Donc, nous, on mène de front deux études d'impact là, qui sont alimentées par ces études complémentaires-là là, au nombre d'à peu près une vingtaine, là, comme je mentionnais. Puis ça, une fois qu'on a complété d'un peu « wrapper » toutes ces études-là ensemble, puis que c'est déposé. Nous, on prévoit déposer le tout là, auprès des instances à Q1 2026, fait que disons mars, quelque chose comme ça, mars 2026. Bien, après, il y a un processus qui peut prendre plusieurs mois, là, voire un an et demi là, d'analyse et tout. Là. Donc, c'est quand même un processus exhaustif pour arriver après ça avec nos permis environnementaux. Puis, tu sais, tu me demandais, Marc, c'est quoi l'importance de l'environnement? Mm-hmm. Extrêmement. Tu sais, moi, je vois pas ça. Je vois vraiment pas ça comme une contrainte, plus un élément à considérer. Puis, ce qui est important, c'est de ne pas le négliger pour pas avoir de mauvaises surprises imprévues. Tu sais, on dit mauvaise surprise, mais le mot juste, pour moi, c'est imprévu. Fait que quand on le fait correctement en avant-projet, en amont, bien, on n'a pas de mauvaises surprises là, ou d'imprévus quand on arrive plus tard. Puis, on a pu mettre les mesures soit de mitigation, soit des plans alternatifs en place pour justement minimiser les impacts là, au niveau environnemental.
C'est pas parce que vous êtes un port de juridiction provinciale que vous avez des passe-droits de dire, ben là, on va aller plus vite, on minimise telle chose, telle loi environnementale. C'est pas le cas. Là.
Non, pas du tout. Même, je dirais à l'inverse, considérant qu'on est un port provincial, nous, on est assujetti autant au fédéral qu'au provincial. Donc, on a vraiment les deux paliers de gouvernement qui, les instances réglementaires des deux paliers là, qui regardent notre projet, ce qui n'est pas nécessairement le cas là, de tout, tous les projets portuaires. Donc, non, on n'a vraiment aucun passe-droit. J'aime à dire que c'est parce qu'on fait bien les choses puis qu'on veut bien répondre aux besoins puis aux requis. On n'essaie pas de contourner là, les façons de faire.
C'est dans l'intérêt de tout le monde, de toute façon. Peut-être un petit mot rapide sur la collaboration avec les équipes sur le terrain. Est-ce qu'on peut en parler brièvement?
Oui, bien, un élément qui est très important, c'est que le port va être en opération pendant les travaux. Donc, ça demande nécessairement beaucoup de collaboration. C'est comme construire dans une usine en production. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas qu'on soit obligé de fermer le port là, pendant les travaux, ce qui demande de collaborer avec les partenaires, donc les opérateurs portuaires, les industries du parc. Ça demande de la flexibilité. Puis nous, de notre côté au projet, on doit vraiment prévoir le projet pour offrir de la flexibilité puis pouvoir s'adapter aux opérations portuaires. Puis c'est comme ça qu'on travaille le projet là, pour assurer que les opérations se poursuivent même pendant les travaux qui dureront un an et demi de vraiment l'appel sur le chantier. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas des travaux qui se font en quelques semaines. Là,
peut-être un appel d'offres, les prochaines étapes, un appel d'offres pour le mode de réalisation collaboratif?
Oui, bien, dans le fond, pour justement essayer de faciliter tout ça, la SPIB, on essaie d'innover là, au niveau des modes contractuels. Donc, ça peut sembler un peu nébuleux, mais dans le fond, on devrait partir en appel de proposition sous peu là, pour vraiment s'adjoindre d'une équipe de réalisation de projet, puis d'y aller vraiment dans un mode axé sur la collaboration là, pour mener à bien la construction du projet. Puis au niveau, peut-être plus rapidement, les prochaines étapes, on a une consultation publique là, qui s'en vient le 14 octobre prochain à la SPIB, donc directement à nos bureaux sur le boulevard à Turcicard en soirée. Donc, il y aura des détails là, sur nos médias sociaux, puis il y aura des publicités là, si la population désire venir nous voir puis nous poser des questions sur le projet.
Wow, Laurence, on est pratiquement à la fin de l'émission déjà. C'est incroyable comment ça passe vite d'un, mais aussi combien il y a du matériel quand on parle du port de Bécancour. Alors, merci beaucoup de ta disponibilité aujourd'hui pour nous expliquer tout ça. Puis, ça me permet de me tourner vers Marie-Noël pour nous parler de ce qui nous attend la semaine prochaine pour le Parc en 30 minutes au niveau de notre prochaine invitée.
Oui, et on continue le sujet, en fait, du volet portuaire. On va recevoir Daniel Dagenais, le PDG du groupe NEAS, qui fait le transport vers les communautés non reliées là, pour desservir, approvisionner les communautés. On avait reçu David Rivet en décembre dernier du groupe des Gagnés Transarctiques. Et là, on va avoir une autre vision des choses avec M. Dagenais du groupe NEAS. Je pense que ça va être fort intéressant.
Donc, c'est vraiment, on parle du port, on parle de ce qu'on va parler la semaine prochaine avec le groupe NEAS. C'est des découvertes pour nos auditeurs et auditrices. C'est ça le but de l'émission, c'est de faire connaître ce qui se passe dans le parc au port, puis de voir un petit peu tout ce qui bouge tout en étant connecté à l'actualité là, semaine après semaine. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Laurence Trépanier, directrice de projet à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, d'avoir été avec nous. Marie-Noëlle Bourque, conseillère en relation avec le milieu à la SPIB, et une fidèle collaboratrice chaque semaine pour préparer ces émissions pour vous, chers auditeurs et auditrices. Alors, c'est Marc Rochette qui vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. Puis tout au long de la semaine, n'importe quand, vous nous contactez pour poser vos questions via .fm, onglet Le Parc en 30 minutes et cliquez sur « Poser vos questions » sur le texto téléphone 819-519-9050. La semaine prochaine, Donald Olivier devrait être de retour avec nous après avoir fêté son anniversaire. Bonne semaine.
Voici ce que vous avez manqué.